Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin Hakim El-Karoui, auteur notamment de l'Islam, une religion française qui paraît aux éditions Gallimard.
Et on va parler évidemment de ce livre et de ses propositions. Bonjour à vous Hakim El-Karoui.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être dans ce studio d'RTL ce matin. D'abord une question sur Menel, cette candidate de The Voice qui s'est finalement retirée de l'émission The Voice suite à des tweets et des messages complotistes. Son départ est-il regrettable parce qu'il risque d'être instrumentalisé dans les quartiers où certains cultivent la haine de la France ? Ou est-ce qu'elle ne pouvait pas rester ?
Moi, je ne suis pas le directeur de la production de TF1. Je trouve que c'est une affaire malheureuse parce que peut-être que ce qui aurait été mieux, c'est que la production regarde son dossier, regarde ses tweets, regarde ses paroles, en sachant que le voile qu'elle portait allait attirer vers elle...
Le turban, d'ailleurs.
Le turban, mais c'est un voile. Allait attirer vers elle des questions... Et que si son discours n'était pas parfaitement clean, d'une certaine manière, il allait y avoir une pression pour la faire sortir. Donc on arrive un peu dans la pire des situations où d'un côté, on va la victimiser. Il y a à travers elle beaucoup de musulmans qui vont se sentir victimisés. Et puis de l'autre côté, on a un déchaînement de haine, de peur, etc.
Mais vous êtes plutôt, du côté de l'intransigeance absolue, ou est-ce que vous dites, par exemple, comme le prix Goncourt, Leïla Slimani, qui regrette qu'on ne lui accorde pas le droit à la rédemption puisqu'elle a présenté des excuses. Est-ce que la défense des restes de la République impose absolument que cette chanteuse, si jeune soit-elle, etc., malgré ses regrets, quitte une émission ? Après tout, elle n'est pas candidate à une élection. Elle n'est pas responsable d'une institution publique. Elle est chanteuse.
Non, on est bien d'accord. Moi, franchement, le sujet me semble compliqué. Ce que je constate, c'est qu'on a fait pression sur elle pour qu'elle parte. Ça a dû aider la production qui n'a pas eu à la virer. Je trouve que c'est une affaire vraiment malheureuse.
Bon, vous n'irez pas plus loin dans l'examen. Mais combien de jeunes grandissent aujourd'hui dans le ressentiment, dans la colère contre la République en France par rapport à l'ensemble des musulmans ?
Combien de jeunes ? On ne sait pas exactement, mais on sait qu'il y en a beaucoup. On sait qu'il y en a beaucoup, on le mesure de deux manières. On l'avait fait dans l'enquête que j'avais faite avec l'Institut Montaigne.
Pour l'Institut Montaigne, qui était une enquête inédite dans son ampleur sur les musulmans.
Il y a deux ans, ce qu'on constatait, c'était qu'il y avait une corrélation entre la jeunesse, le lieu où on habitait, les quartiers populaires en gros, et puis le niveau éducatif, corrélation entre cette catégorie-là et puis des gens qui refusaient un certain nombre de valeurs et d'institutions et qui utilisaient la religion pour manifester ce refus. Et on était arrivé à des chiffres de 30-40% des moins de 25 ans qui étaient dans cette attitude.
Vous aviez précisément dit, on en avait parlé sur RTL, 28% des jeunes musulmans, moins jeunes d'ailleurs, font passer la charia avant la loi républicaine.
Oui, on a retenu cette question. En fait, c'est pas la meilleure question parce que je pense qu'il y a des catholiques qui font passer la loi de Dieu avant la loi républicaine. Mais il y avait un ensemble de questions qui permettaient de faire un groupe qui effectivement correspondait à peu près 28% de la population musulmane.
C'est considérable par rapport à l'ensemble des musulmans. Pourquoi dites-vous que les islamistes ont gagné la bataille des idées ?
Ah, parce qu'aujourd'hui, ils imposent leurs normes religieuses. Et vous voyez, il y a trois cercles. Il y a des vrais militants qui sont pas extrêmement nombreux. Il y a des sympathisants qui relaient. Et puis il y a des gens qui sont plutôt des gens silencieux, qui vont croire ce qu'ils entendent. Ce qui est très frappant, c'est que aujourd'hui il y a une forme de néo-islamisation. La religion, d'habitude, ça se transmet par la famille. Aujourd'hui, elle se transmet plus par la famille. Elle se transmet par les groupes de copains et elle se transmet par Internet. Et quand vous regardez notamment sur Internet, quelle est l'offre de discours religieux, théologique, musulman, vous avez 80%. 90% de discours qui est même pas islamiste, qui est salafiste, wahhabite. Donc une norme extraordinairement rigoureuse. Et en face, il n'y a personne.
Mais c'est quoi la bataille des idées ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le port du voile, par exemple, la viande halal, c'est considéré comme une norme qu'elle s'est imposée comme étant la règle de base de l'islam ? C'est ça que vous voulez dire ?
Ou comme étant la règle de base, en tout cas le symbole de l'islam. Aujourd'hui, quand on veut représenter une femme musulmane, vous représentez une femme voilée. Mais pourquoi représenter une femme musulmane comme voilée ? Il y a des femmes musulmanes qui ne sont pas voilées.
Oui, il y en a assez peu.
Il y en a beaucoup, il y en a même une majorité, puisqu'il y a un tiers des femmes musulmanes qui sont voilées. Ouais. Donc c'est un signe d'appartenance qui est revendiqué par des gens qui veulent mettre leur identité religieuse en avant et qui est utilisé et qui s'impose petit à petit comme quelque chose de naturel.
Mais ce que vous voulez dire, c'est qu'une femme qui porte le voile et qui nous dit « moi je le porte parce que j'aime ça, parce que ça me fait plaisir, parce que c'est joli, etc. » En réalité, elle est victime de cette norme imposée par les islamistes ?
Elle n'est pas victime, elle a choisi. Elle a choisi.
Vous ne croyez pas ce discours?
Non, moi, j'aime pas la victimologie. Je pense que les musulmans, ils sont ni coupables, ni victimes, que maintenant, ils doivent être responsables. On est dans un problème de tension très, très forte à l'intérieur de la société française. Mmh. Il y a eu des attentats extraordinairement violents, perpétrés au nom de l'islam. Et je pense qu'aujourd'hui, pour sortir des histoires de Menel, qu'est-ce qu'il faut, au-delà de la conjoncture? Il faut qu'il y ait un mouvement qui se lève, de Français de confession musulmane, qui disent d'un côté « stop », et de l'autre côté, qui agissent.
Juste avant, pour revenir au port du voile et à la viande halal, est-ce que c'est imposé par le Coran? Revenons à des questions de...
Plusieurs interprétations. Moi, oui, je ne suis pas théologien. Quand je lis le Coran, je vois qu'il y a pas, le port du voile n'est pas obligatoire. Et le halal non plus. D'ailleurs, le halal n'existait pas en France. Il y a 40 ans, il y a même un verset du Coran qui dit « Vous mangerez la viande des gens du livre ». Les gens du livre, c'est qui? C'est les chrétiens et les juifs. Ceux qui imposent le halal ou ceux qui promeuvent le halal disent « Oui, mais il n'y a plus assez de juifs et de chrétiens en France ». Vous voyez le raisonnement?
Ouais. Donc c'est nous qui allons faire le boulot, en gros. Hein.
C'est nous qui allons faire le boulot,
et, et donc, pour le port du voile, la viande halal, ce n'est pas précisément dans le Coran.
Non, il y a des gens qui vont interpréter, qui vont chercher des propos du prophète, etc.
Alors l'islam, une religion française, c'est le titre de votre livre. Ce n'est pas un peu provocant, là, dans une France de tradition chrétienne?
Oui, la France est de tradition chrétienne et l'islam est devenu une religion française. Elle ne l'était pas, elle l'est aujourd'hui et on le voit très bien. D'abord, les musulmans de France sont français. Aux trois quarts. Ensuite, et c'est quelque chose de très très important, l'islam est probablement la religion la plus pratiquée en France aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a 3 millions de pratiquants. Quand vous regardez les catholiques, d'abord, il y a la moitié de la population française seulement qui se dit catholique, donc ça fait 33 millions sur 66, et il y en a 5% qui vont à la messe à peu près tous les dimanches. C'est comme ça qu'on mesure la pratique du catholicisme. 5% de 33 millions, ça fait 1,7 million. Donc vous voyez, il y a plus de pratiquants musulmans, ils sont pratiquants aux deux tiers à peu près.
Alors l'idée la plus partagée est que l'islam est une religion étrangère. Bon, vous venez de nous dire que ce n'est pas tout à fait le cas, ce n'est plus le cas, contrôlée par des puissances étrangères. Ça, c'est le cas?
Pas vraiment, en fait. Ça a été le cas. Ce qui est contrôlé, c'est le financement du culte.
Les mosquées?
Les mosquées. En fait, le financement de quelques imams. Il y a 2500 lieux de culte en France, musulmans. Il y a environ 1000 mosquées, chose qui ressemble à une mosquée. Il y a 300 imams, pas plus, hein, qui sont financés par des pays étrangers. Donc il y en a 700 autres qui sont financés localement. Le problème, il n'est pas exactement dans le financement par les pays étrangers. Ce n'est pas l'Arabie Saoudite, ce n'est pas le Qatar qui finance des imams.
Les pays qui financent, c'est...
Maroc, Algérie, Turquie.
D'accord.
Le problème, c'est que en donnant l'organisation de l'islam à ces pays, on a importé leurs conflits, leurs querelles, et puis les mosquées qu'ils représentent sont en conflit d'intérêts, et en conflit d'intérêts financiers, parce qu'on a besoin d'argent indépendant. Il y a plein d'argent en France lié à l'islam. Sauf que, comme ceux qui gèrent cet argent n'ont pas intérêt à voir émerger une structure d'intérêt général, ben il ne se passe rien. Le budget du CFCM, vous savez de combien il est?
Non.
30 000 euros.
30 000 euros.
Est-ce qu'avec ça, on peut lutter contre la radicalisation?
Et alors, l'argent, il vient d'où?
Ben, l'argent, il vient un peu des pays étrangers. Il vient des pays étrangers sur l'aspect caritatif, l'action sociale. Et ça, personne ne sait combien il y a d'argent. Et puis, il vient des fidèles. Et il n'est pas toujours utilisé de façon très transparente.
Oui. Et alors, vous prenez une taxe halal, un impôt sur la viande halal.
Pas un impôt.
Qui rapporterait 5 milliards d'euros, enfin une taxe. Non. Une contribution.
Une contribution.
Des fidèles, alors.
Payée par les gens qui consomment, sur le halal, mais aussi sur le pèlerinage, qui permettrait de créer une structure de financement qui aurait des flux financiers réguliers, ouverts, transparents. Ouais. Et avec cet argent-là, on pourra financer des imams, sans avoir besoin des pays étrangers. On pourra financer leur formation théologique, on pourra financer le travail théologique, c'est ça le plus important, le travail théologique, des chercheurs, des islamologues, des religieux. Et puis on pourra aussi contrôler le système. Donc on met une structure.
Pour pas qu'il y ait cet éparpillement, cet émiettement qui laisse la place à des imams français.
Des imams français, mais surtout
radicaux,
des jeunes. Encore une fois, les imams, il ne faut pas se focaliser sur les imams. Le sujet aujourd'hui, c'est les prédicateurs sur Internet. Ils n'ont pas besoin d'être imams. Ils ont une influence absolument considérable. Et face à eux, il faut mettre une offre alternative religieuse.
Est-ce que les imams doivent être formés par l'Université de la République?
Dans le cadre de la loi actuelle, non. Ils peuvent avoir une formation.
Il ne faut pas toucher la loi de 1905. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit faire évoluer la loi de 1905?
Ça, c'est lui qui décidera. Moi, je pense que rien ne fonctionnera si on ne met pas les musulmans, si on ne les embarque pas, si on ne les responsabilise pas. Donc l'idée que l'État d'en haut va décider, va former, va salarier, ça ne marchera pas parce qu'il y aura une rébellion. On est dans un système qui utilise la religion pour manifester sa rébellion. Donc ne leur donnons pas ne leur donnons pas place pour argumenter face à cette rébellion.
Vous voulez vous appuyer sur les islamistes intégrés, hein,
ceux non, qui ne parlent pas sur, les islamistes intégrés,
sur les musulmans intégrés, pardon. Mais pour certains, vous êtes très naïf. Pour certains, parce que il y a des musulmans justement intégristes en masse dans cette majorité silencieuse.
Je ne suis pas tout à fait naïf et je pense que quand on connaît les gens, on sait à qui on peut avoir affaire. Il faut regarder leur histoire, leur background, qui ils fréquentent, avec qui ils pensent. Non, il n'y a aucune naïveté. Il y a la volonté de mettre en place un système très rapidement, avec pas beaucoup de monde, qu'on connaîtra extrêmement bien, pour mettre de la transparence, de l'argent, et avec l'argent, on structure le système, et on peut tenir, et on peut mener cette bataille culturelle. Et puis pour finir, j'ai envie de m'adresser aux musulmans de France. Ne laissez pas votre religion gangrénée par des fous furieux. Ne laissez pas votre religion gangrénée par des gens qui veulent vous séparer du reste de la société française. Vous allez en être les victimes. Vous les parents, vous les enfants. Donc il faut se mobiliser dans l'organisation, mais encore une fois, et peut-être encore plus, sur le discours religieux.
Voilà l'appel d'Hakim El-Karoui à cette majorité silencieuse dont on parlait à l'instant. Son livre « L'islam, une religion française » pour bien comprendre ce que c'est l'islam aujourd'hui chez Gallimard, c'est très précieux. Merci à vous.
Merci.
Et l'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr comme chaque jour. Merci à tous les deux.